Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruit.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui John Scheid, qui est titulaire de la chaire Religion, Institutions et Sociétés de la Rome antique au Collège de France. Bonjour John Scheid.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous avez publié en 2013 au Seuil un livre, Les dieux, l'État et l'individu, qui a pour sous-titre « Réflexion sur la religion civique à Rome ». C'est un livre à la fois scientifique et polémique. Il est scientifique puisque vous argumentez contre des confrères qui refusent le concept ou la réalité de la religion civique que vous défendez. Il est aussi polémique en ce sens que vous dites clairement et d'entrée de jeu d'où vous parlez, comme on disait à une certaine époque. Alors pourriez-vous dégager un peu l'enjeu de ces discussions et nous éclairer sur ce dont il s'agit ?
Oui, certainement. Le livre est parti d'une sorte d'irritation que j'avais devant l'émergence de quelques théories qui se voulaient modernes et renverser tout ce qui avait été fait jusqu'à présent et attaquer ainsi ce que nous appelons la religion civique, c'est-à-dire la manière dont on fait depuis au moins une génération, sinon deux, l'histoire des religions de l'Antiquité, c'est-à-dire de considérer que c'est des religions communautaires où l'institution religieuse, c'est la société, que ce soit l'État, la famille, une association, une unité militaire, tout ce que vous voulez. Et on a mis du temps à arriver là parce que longtemps, jusque vers 1900, au moins, l'opinion était que c'était là des religions tout à fait décadentes, inexistantes, qui méritaient pas le nom de religion, et que la seule chose intéressante, c'était la conversion au christianisme qui arrivait finalement au IVe siècle. C'était la théorie avec Constantin. Et puis, éventuellement, de-ci, de-là, quelques lueurs qui rappelaient une véritable religion. Il y a eu, depuis le début du XXe siècle, des protestations contre cette position, notamment par un collègue allemand en 1912, déjà, qui disait qu'il... Quand on lui rapprochait que tout ça, c'était des bêtises, c'était une non-religion, il disait ben, les Romains avaient le droit d'être un peu différents. Donc l'altérité, c'est déjà très vieux. Et puis, il y a eu en France, au contact de l'ethnologie, de l'anthropologie, de la sociologie naissante, des collègues comme Louis Gernet, Georges Dumézil, puis après eux, Jean-Pierre Vernant, Marcel Détienne et d'autres qui... dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire les religions grecques et romaines, ont vraiment mis en place une façon d'analyser ces religions fondées sur ce côté d'appartenance institutionnelle, sociale, et ont ainsi développé l'idée, ce que nous appelons religion civique, que le citoyen est un croyant comme les autres, mais dans un autre système, en insistant sur l'altérité. Et j'ai été très étonné que devant ce qui paraissait normalement un progrès dans la plupart des pays, on revenait avec une théorie où tout cela était évacué, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'institution religieuse, parce que dès qu'on est dans une institution, c'est forcément décadent, orienté, c'est un discours, etc. Seul l'individu, face à son créateur, est un fondement religieux. Or, il suffit d'avoir un peu de formation philosophique pour reconnaître derrière cela l'idéalisme allemand, romantique, et des notions comme la religiosité, qui sont des termes de théologie protestante, adoptés ensuite par tout l'Occident bien-pensant quand on parle de religion. Et on le trouve même sous la plume de grands sociologues comme Max Weber, etc., qui ne se posaient pas des questions sur ce plan. Et c'est contre cela que je voulais réagir, en montrant d'un côté, comme historien, que pour arriver à ces conclusions, à cette déconstruction, eh bien, il fallait rompre un peu avec la méthode historique et faire toute une série de contresens sur le monde romain. Et d'autre part, de montrer aussi que ce n'était pas un progrès dans les connaissances, mais plutôt une régression. C'était une histoire qui était théologique, déterminée par une théologie. Faire une histoire théologique des religions, pourquoi pas, c'est, tout le monde a le droit de le faire, mais il ne faut pas se donner à ce moment-là l'attitude d'un historien qui fait vraiment l'histoire des religions de façon neutre et scientifique.
Oui, ces propos vont nous permettre de nous approcher, de nous rapprocher de l'actualité et de ne pas rester enfermés chez les Romains. Vos réflexions peuvent sans doute nous aider à comprendre certains aspects de nos attitudes actuelles, parce que c'est ce qui est intéressant. Et je vous demande si nous ne continuons pas en ayant conscience ou en n'en ayant pas conscience, quand nous débattons de la laïcité, à penser en nous appuyant sur ce soubassement chrétien et théologique. Et si c'est le cas, cela a peut-être de lourdes conséquences dans notre relation à l'autre ou aux autres, et nous conduirait peut-être à refuser, plus ou moins, ce respect de l'altérité, entre guillemets, parce que c'est vous qui l'écrivez, qui, dites-vous, est le fondement d'une attitude laïque. Mmh. Donc, dans les débats actuels, c'est une question importante.
Absolument, parce que nous avons, après 2000 ans presque de christianisme, nous avons une inclination naturelle à aller dans certaines directions. Et tous les praticiens, tous les historiens le savent. Souvent, on arrête le raisonnement, on dit « mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Qui dit ça ?» Et on voit que c'est pas les anciens, que c'est le cerveau qui produit ses idées lui-même. Et bien entendu, nous faisons la même chose quand nous parlons des religions, des attitudes idéologiques aujourd'hui. Naturellement, nous allons dans un certain sens. Et l'altérité, c'est plus difficile à admettre instinctivement que l'on ne le pense. Et il faut un acte de pensée et de volonté parfois pour penser rationnellement en fonction des faits, des données et des concepts, et non pas en fonction d'inclination. Je me dis souvent, quand quelque chose me paraît trop évident dans une explication de l'histoire romaine, par exemple, je me méfie. Parce que quand c'est trop évident, c'est qu'il y a un contresens quelque part. Parce que ce n'est jamais vraiment innocent et facile. Il faut toujours arriver à démonter cette altérité.
Ce que Bachelard disait des erreurs.
Voilà, absolument.
Donc l'histoire n'était pas écrite à l'avance, ce qui se passait à Rome n'était pas fait pour aboutir au christianisme, qui d'ailleurs peut-être ne s'est pas réalisé aussi vite qu'on le dit parfois.
Absolument, je pense qu'on n'a pas à suivre Hegel, un de nos grands maîtres à penser, dans cette construction a priori de l'histoire qui aboutit nécessairement à l'élimination des premières phases religieuses pour aboutir, sur le plan religieux, au christianisme qui aboutira au protestantisme luthérien au début du 19e siècle. Je crois que ça, il faut absolument le nier, mais beaucoup d'historiens ont comme unique objectif d'expliquer la conversion. Et la conversion, c'est pas saint Paul qui tombe de cheval, il n'est pas tombé, il semblerait, mais enfin, qui découvre un jour la vérité. C'est pas comme cela que ça s'est passé. Ça s'est passé sur des siècles et des siècles, et pas dans tous les milieux. Et entre Constantin, début du 4e siècle, et Charlemagne, il s'est passé beaucoup de choses, et le christianisme c'est aussi, les christianismes se sont transformés eux-mêmes, et il a souvent fallu l'intervention de l'État, d'ailleurs, de l'empereur, pour fixer des dogmes ou faire prévaloir tel ou tel choix dogmatique, de sorte que dire que c'est la conversion, ce serait l'individu qui reconnaît enfin son créateur, ça c'est des choses qui se passent beaucoup plus tard, au XVIe siècle, dans un contexte très particulier du christianisme.
Oui, donc une religion n'est pas nécessairement le rapport d'un individu à un dieu, ce n'est pas nécessairement transcendant.
Non. La religion romaine, c'est un des aspects amusants, est une religion sans métaphysique. Ou plutôt, pardon, il y a une métaphysique, mais les dieux sont chez eux. Et les hommes sont incapables de comprendre autre chose que les noms qu'ils leur donnent. Là, je cite Socrate. Et ce qui les concerne, c'est le partenariat sur Terre avec leur dieu, les rites qu'ils doivent accomplir, et c'est ça qu'ils peuvent comprendre. Le reste, la métaphysique, est hors du champ religieux, si vous voulez. On peut spéculer, évidemment, mais là, on fait de la philosophie, on fait de la littérature, comme nous, quand nous spéculons sur, je ne sais pas quoi, sur la noosphère, etc.
Oui, alors, bon, il y a la fameuse querelle de l'étymologie religare, religare. Je crois que Benveniste expliquait que religare, c'était une invention des pères de l'Église, mais que c'était pas du tout ce que disait Cicéron ou Cicéron.
Mais il y avait en fait deux étymologies concurrentes, parce que, autre caractéristique de cette religion autre, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas de révélation, donc... On peut dire ce qu'on veut. Et religio, bon, c'est à la fois relegere, une sorte d'obligation religieuse qu'on contrôle très, très fermement, avec anxiété parfois. Et puis religare, c'est aussi des liaisons, mais sur terre, entre un dieu et des dieux et des hommes, entre des dieux et une communauté. C'est comme cela qu'il faudrait dire. Parce que l'individu, qu'est-ce que c'est la personne à l'époque dont je m'occupe?
Oui. Alors, l'arrivée, si je puis dire, de l'islam massivement en France nous pose un problème de ce point de vue. Quand on dit l'islam doit, est-ce qu'on n'est pas en train d'écrire l'histoire de l'islam qu'on souhaiterait voir advenir de la façon dont ça nous arrangerait à partir de nos présupposés?
Certes, oui, c'est évident. On a forcément en face d'autres religions... des appréhensions, où on a des idées de la manière dont cela devrait se passer, etc. Mais c'est le même type de discours.
Donc la laïcité, le fondement de la laïcité, ce serait de reconnaître que les autres ne sont pas comme nous.
Ça, c'est le premier pas. Les autres ne sont pas comme nous, et qu'ils ont le droit d'être comme ils sont. Et c'est ça. Et la laïcité, c'est aussi que tout le monde respecte ce pacte. Tout le monde.
Bon, c'est certain, vous ne manqueront pas de vous dire que c'est très beau, cette façon de voir et de respecter l'autre, mais il en est qu'ils ne manqueront pas de vous reprocher d'être guetté par une forme de relativisme redoutable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette objection qu'on pourrait vous faire,
non,
je ne vous fais pas.
Je n'ai pas cette peur, parce qu'en général, j'ai pas peur d'éismes et ce genre de reproches. Mais si j'analyse correctement relativisme, je ne pense pas que le fait de reconnaître l'altérité de quelqu'un nie une autre position qui pourrait, par exemple, être la mienne. Simplement, je l'admets qu'il a le droit pleinement de l'exprimer et qu'il accepte aussi de respecter la mienne. C'est ça, pour moi, l'attitude. Nous sommes en France, par exemple, j'admets parfaitement qu'il y a des vieilles traditions religieuses, le judaïsme, le christianisme, la laïcité, l'agnostisme, tout ce qu'on veut, tout ça doit être respecté par tout le monde, mais il y a aussi d'autres religions. Mais j'admets que certaines traditions locales sont actuellement plus liées au présent que d'autres, et... je ne vois pas en quoi je suis relativiste si j'admets, il dit attention, l'islam ou tel bouddhisme ou telle religion ont également le droit d'exister. Et respectons-les et admettons que là, les Romains, c'était plus simple, il n'y avait pas de révélation, qu'il y a aussi un grain de vérité dans leurs croyances, leurs idées.
Et admettons qu'il est possible d'avoir des débats argumentés.
Absolument. Comme disait Symmac, qui était un réactionnaire, un des derniers païens au fin du 5e siècle, il y a plusieurs chemins pour arriver à un mystère aussi terrible. Aux chrétiens, il disait ça.
Donc, vous défendez dans votre métier, votre pratique, une conception de l'histoire. Et je lisais récemment un livre d'un monsieur qui s'appelle Bruce Lincoln, qui est un Américain de Chicago, je crois. et qui écrivait, disait « La religion est ce discours qui se caractérise par sa prétention à parler de choses éternelles et transcendantes avec une autorité tout aussi transcendante et éternelle. Par opposition, l'histoire est ce discours qui parle de choses temporelles et terrestres à partir d'une foi humaine et faillible et dont la prétention à l'autorité se base sur une pratique critique rigoureuse. » Est-ce que vous adhéreriez à cette façon?
Pleinement, parce que ce que je fais, c'est même pas de la laïcité, c'est de l'histoire des religions, pas de théologie, de l'histoire. Et l'histoire, c'est de reconnaître tous les faits et d'étudier leur interaction, et voilà.
C'est sur ces derniers mots, cette parole d'historien, que nous allons clore cette émission.
D'historien rationaliste.
John Scheid, je vous remercie. Guy Bruy, je vous remercie.
De rien.
Je renvoie donc au livre de John Scheid, « Les dieux, l'État et l'individu » paru au Seuil en 2013. Je rappelle le dernier numéro de Raison présente qui porte sur la notion de progrès et qui est les actes du colloque de l'Union rationaliste et qui évidemment fait référence aussi au numéro 189 de Raison présente, intitulé « Le progrès désirable ». Je remercie Éric Boisset et Dany Journaud qui ont rendu possible cette émission. Je vous souhaite un bel été et je vous dis au mois prochain.